En marche vers Noël, une veillée proposée par Hélène Sauvignon et Georges Nougier de la paroisse de Tarascon.
Joyeux Noël, Georges!
Joyeux Noël, Hélène!
Avec vous, Georges Nougier, ce soir, nous sommes ensemble et nous venons de fêter la fête de Noël. Nous entrons dans cette immense fête. Merci d'être avec nous. Je vous ai invité, vous êtes un grand ami, vous êtes un chrétien engagé, déjà par votre vie de foi, votre vie de prière. Dernièrement, vous avez pris un engagement dans le mouvement Priscille Aquila.
C'est ça.
Vous avez l'habitude de témoigner en couple.
Oui.
Vous avez aussi une belle culture familiale. Vous venez de Tarascon. En plus, vous avez le bel accent tarasconnais.
Voilà.
Moi, je savais, comme les auditeurs le savent peut-être, et s'ils ne le savent pas, je vais leur apprendre, je suis québécoise. Ma culture initiale est donc du Québec. Et ce que j'ai apprécié en venant ici, parce que souvent, quand on découvre une autre culture, ça me... on est peut-être plus frappé par les différences et les richesses.
Tout à fait, oui.
Et la grande richesse, je trouve, de cette culture provençale, c'est que la fête de Noël est centrale.
Tout à fait, oui, c'est vrai.
Et culturellement centrale. Qu'on soit ou non croyant, Noël, c'est sacré.
C'est sacré.
Et il y a beaucoup de belles significations rattachées à l'Évangile.
Oui, c'est vrai. On le dit en Provence, hein. Jésus est né en Provence.
Il paraît.
On le chante, hein, voilà. On est de culture très ancrée dans cette Provence vraiment, voilà, et surtout dans ces lieux de Arles, Tarascon, Mayanne, hein, Alphonse Daudet, Frédéric Mistral surtout, qui a donné cette culture de cette langue provençale qui est belle.
Enfin, je ne pense pas qu'il l'ait donnée, il l'a enrichie.
Elle était déjà là.
Il a mis en lumière quelque chose qui était présent, très fortement.
Très fortement.
Moi, j'ai l'impression quand même que le fait que les papes soient venus à Avignon, ça a joué.
Ça a joué, peut-être, oui.
Mais toujours est-il que c'est avec vous et moi, donc tous les deux, nous proposons à nos auditeurs une veillée. Hein, parce que parfois, certains se retrouvent un peu seuls le soir de Noël. Par raison de maladie, par raison de décès, par raison d'éloignement des enfants. Notre radio est là et on vous propose de vivre ensemble cette belle nuit de Noël.
On va essayer de vous accompagner, chacun auditeur, seul chez vous, dans cette veillée, en vous rejoignant dans ma langue provençale et dans mon accent.
Dans votre accent, ça c'est sûr. Vous m'avez apporté plusieurs textes.
Oui.
Et on commence peut-être par celui de l'annonce de la nativité. C'est tiré du martyrologe.
Du martyrologe, oui, tout à fait. De longs siècles avant la création du monde, quand Dieu au commencement créa le ciel et la terre, de longs siècles encore après la désobéissance du premier homme, quand Dieu lui annonça le salut, et après la purification de la terre par les eaux du déluge, 2000 ans après l'appel de Dieu à Abraham et son départ dans la foi, ne sachant où il allait, vers la terre de la promesse, 1500 ans après la révélation du nom à Moïse dans le feu du buisson ardent, après la rédemption du peuple arraché à la servitude de l'Égypte, sa délivrance à travers les eaux de la mer Rouge et sa longue errance au désert dans la force de l'Alliance, 1000 ans après l'onction du roi David et la promesse du Messie, 752 ans après la fondation de Rome, 587 ans après la chute de Jérusalem et la déportation du peuple à Babylone pour la purification des cœurs par l'exil et la parole des prophètes. 550 ans après les souffrances des martyrs d'Israël sous la domination grecque. Les pauvres du Seigneur étant dans l'attente en ce jour qui sont les derniers, où furent achevés les siècles de la patience de Dieu, quand fut venue la plénitude des temps, César Auguste étant empereur à Rome, Hérode roi de Judée, sous le pontificat d'Anne, tout l'univers étant en paix, lors du grand recensement, Jésus-Christ, Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, se fait homme. Ayant été conçu par la puissance du Saint-Esprit, il naît de la Vierge Marie à Bethléem de Juda, la cité de David. C'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ selon la chair. Venez, adorons, prosternons-nous. Il est né, le divin enfant.
Chantons tous son avènement.
Depuis plus de 4000 ans, nous l'acclamons et le prophète. Depuis plus de 4000 ans, nous attendons cet événement.
Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez une musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.
Oui, souvent, Hélène, ce texte est lu après le pastrage, après cette veillée où on attend, quand on a ouvert les portes de l'église à Sainte-Marthe, chez moi, à Tarascon, vers 22h45, à 23h commence la veillée, et puis vers 23h30, 23h45, alors le diacre. Et souvent, bon, moi, je l'ai lu parce que, voilà, j'avais cette voix assez forte. Je monte même des fois dans le où il y a la prêche, hein, comme avant, hein, et là, je lis à haute voix et je scande ça, tous ces siècles, et on attend pour dire, voilà, c'est un très, très beau texte que j'aime beaucoup. Et alors, après, évidemment, la chorale entonne, il est né le divin enfant, et on le chante à tue-tête quand on est dans la joie et l'allégresse.
Mais c'est vrai qu'en le relisant, on se dit, 1000 ans sont comme un jour. Nous, on a l'impression que notre vie est hyper longue, mais on arrive vraiment à la... J'aime beaucoup ce terme, plénitude des temps.
Tout à fait.
Et la Vierge, elle est pleine de grâce. Enfin, c'est ce mot plein nous fait du bien parce que, je ne sais pas, on aime cette plénitude. Et là, ça nous situe, on se rend compte de tout ce qui a été mis en place, tout le cadeau de notre univers qui a été créé, tout ce qui a dû être installé comme des morceaux de puzzle pour qu'arrive cette pièce de la nativité de Jésus.
C'est cela, oui, tout à fait. Après, bien, il y a le gloire à Dieu et alors là... On l'entonne, ce gloire à Dieu, et avec les anges et toute la création.
Écoutons le Gloria de la nuit de Noël. qu'il est beau ce chant, les anges dans nos campagnes. Donc vous le chantez après cette belle annonce?
Oui, tout à fait, Hélène. On le chante après cette belle annonce pour crier notre joie avec les anges. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime.
Et bien ensuite, la messe commence.
La messe commence, la liturgie commence. Tout ce qui est de l'ordre de la liturgie, le Gloria, bien sûr.
Mais avec les paroles du Gloria.
Avec les paroles du Gloire à Dieu.
C'est important, chaque chose a sa place. Et dans la veillée, c'est très beau aussi de donner une place à ce chant du Gloria.
Voilà.
Et c'est marrant parce que dernièrement, j'étais chez un médecin, un ostéopathe, que je salue, que j'aime beaucoup cet ostéopathe. Et je lui ai dit, tu sais d'où viennent les paroles du Gloria? Et il ne le savait pas. On se rend compte que de plus en plus de gens n'ont plus ces clés de lecture. Alors redisons-le à nos auditeurs. Ce sont les anges qui sont apparus aux bergers
et qui ont dit
gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Oui, exact. Tiré de cet évangile de Luc, et ce sont les anges vraiment qui le disent aux bergers, à ces pauvres, à ces petits.
Ce que j'ai connu, moi, de la Provence aussi, quand je suis arrivée en France, je ne suis pas arrivée directement en Provence, et il y avait la pastorale d'Yvan Audouard. Et là, il y a l'ange Bouffaréo. Et c'est lui qui commence la pastorale par cette annonce. C'est très juste.
C'est très juste, oui.
C'est quand même l'ange qui a...
Oui, c'est l'ange l'ange le plus pauvre, le plus maladroit, le plus sale. Et dans certaines traditions, on dit que la Vierge Marie, c'est à cet ange un peu gauche, pas fini, on dit chez nous, pas fini, oui, il n'a pas l'éclairage à tous les étages, il est très sale, il est pas beau, il est maladroit. Eh bien, la Vierge Marie va lui donner l'enfant Jésus dans ses bras.
Ah.
Et je trouve que c'est très très beau. Il y a, voilà, c'est au plus petit, voilà, ce que, pas les autres quoi, mais c'est à celui-là qui est donné. Voilà.
C'est tout le mystère de Noël.
C'est tout le mystère de Noël.
Dieu qui s'est abaissé.
Qui s'est abaissé.
Et au plus profond.
Au plus profond de l'humanité. Et qui, nous on regarde à l'apparence et Dieu regarde au cœur. Et voilà.
Mais pour l'illuminer. Pour l'amener à la lumière, rendre beau.
Tout à fait.
Je trouve que c'est quand même beau que, liturgiquement, on mette la fête de Noël au solstice d'hiver.
Tout à fait.
C'est au plus profond de la nuit, dans la nuit la plus longue.
Ouais.
Et j'imagine que dans les pays comme l'Islande, tous ceux qui sont dans le pôle Nord, ils n'ont qu'une heure d'ensoleillement au moment du 24 décembre. Vous vous rendez compte?
Une heure d'ensoleillement.
Oui. C'est dans ce cœur de la nuit que Jésus est venu prendre chair.
C'est ça, oui. Dans certaines traditions disent que c'est à partir dans la nuit du 24 au 25 décembre que les jours augmentent.
Oui.
Et c'est à partir du 24 juin, c'est pour ça qu'on a mis la fête de Jean-Baptiste le 24 juin. Il faut qu'il croisse
et que moi
je diminue, et à partir du 25 juin, eh bien les jours commencent à diminuer et ils commencent enfin à regrandir le 24 décembre. Je trouve que l'Église, dans sa sagesse, a fait les choses dans cette perfection que je trouve très belle et qu'on ne dit pas assez. Voilà, enfin bref, je ne sais pas si c'est la réalité, mais qu'importe. En tout cas, je trouve que c'est beau d'avoir placé, parce que souvent les jeunes aujourd'hui posent la question, mais pourquoi le 25 décembre, pourquoi c'est pas le 25 janvier? Ben voilà, parce qu'on a suivi un peu ce solstice, on a suivi le soleil, on a suivi les jours, les astres.
Voilà, oui, et puis de tout temps, l'humanité a fait quelque chose au solstice, a posé un acte de foi que le soleil allait revenir. Mais ce qui est beau aussi, c'est que un des premiers signes, c'est un ange d'ailleurs, c'est un ange qui est apparu à la Vierge. C'est un ange qui est arrivé.
Eh oui, l'ange Gabriel.
Qui l'a annoncé qu'elle serait...
Tout à fait.
Mère du Christ.
Et je trouve très beau, alors la traduction de la liturgie et même la traduction de la Bible de Jérusalem ne me plaît pas trop. Marie dit à la réponse de l'ange, je suis l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne suis pas la traduction, c'est je suis la servante du Seigneur. Là, je trouve que le mot est encore plus fort, il est plus profond, il est comme si elle s'abaissait, si elle se soumettait. Le mot est pas, on n'aime pas ce mot, mais c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est je suis l'esclave du Seigneur.
C'est un sens d'une très grande dépendance à la grâce de Dieu.
Et oui. Et c'est ce que notre foi nous invite, nous chrétiens.
Oui.
Aujourd'hui, nous devons vraiment faire confiance, nous abandonner réellement. Je m'abandonne, mais bon, Seigneur, je te reprends ça, et tu me prends... Attends un peu, et non.
Et le Seigneur attend.
Et le Seigneur attend. Tout à fait, il est patient.
C'est ça qui est beau. Le Seigneur va à notre vitesse aussi.
À notre vitesse.
Vous l'avez expérimenté, vous, personnellement.
Oui, tout à fait.
C'est ça qui est beau. C'est un ange aussi, il me semble que Saint Joseph, c'est un ange aussi qui lui dit de partir de Bethléem,
oui.
Ou c'est en songe. Alors je ne sais plus si c'est un ange ou pas. En tout cas, la place des anges est importante. Et ce qui est beau aussi, c'est la place des étoiles.
Mm.
C'est une étoile qu'ont suivi les rois
mages. Tout à
mages.
Fait, c'est une étoile.
C'est une étoile. Et alors, je vais vous proposer qu'on lise un très très beau texte d'Alphonse Daudet.
Oui.
Vous m'aviez proposé de nous lire ce texte.
Tout à fait. Ce sont les étoiles qui sont dans les lettres de Montmoulin, d'Alphonse Daudet.
Récit d'un berger provençal.
C'est ça.
Vous l'aimez ce texte?
Je l'aime beaucoup parce que c'est surtout la fin qui me plaît énormément. Je trouve que c'est poétique et je trouve que ce berger, il a quelque chose à transmettre dans cette nuit de Noël où lui est seul comme tous ces gens dont nous, on est là, on les rejoint en ce moment. Du temps que je gardais les bêtes sur le Luberon, je restais des semaines entières sans voir âme qui vive. Seul dans le pâturage avec mon chien Labri et mes ouailles, de temps en temps l'ermite du mont de Lure passait par là pour chercher des simples, ou bien j'apercevais la face noire de quelques charbonniers du Piémont. Mais c'étaient des gens naïfs, silencieux à force de solitude, ayant perdu le goût de parler et ne sachant rien de ce qui se disait en bas dans les villages et les villes. Aussi, tous les 15 jours, lorsque j'entendais sur le chemin qui monte les sonnailles du mulet de notre ferme m'apportant les provisions de quinzaine et que je voyais apparaître peu à peu au-dessus de la côte la tête éveillée du petit Miaro, garçon de ferme, ou la coiffe rousse de la vieille tante Norade, j'étais vraiment bien heureux. Je me faisais raconter les nouvelles du pays d'en bas, les baptêmes, les mariages, mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de savoir ce que devenait la fille de mes maîtres, notre demoiselle Stéphanette, la plus jolie qu'il y eût, à 10 lieues à la ronde. Sans avoir l'air d'y prendre trop d'intérêt, je m'informais si elle allait beaucoup aux fêtes, aux veillées, s'il lui venait toujours de nouveaux galants. Et à ceux qui me demanderont ce que ces choses-là pouvaient me faire, à moi, pauvre berger de la montagne, je répondrai que j'avais 20 ans et que cette Stéphanette était ce que j'avais vu de plus beau dans ma vie. Or, un dimanche, que j'attendais les vivres de quinzaine, il se trouva qu'ils n'arrivèrent que très tard. Le matin, je me disais, c'est la faute de la grand-messe. Puis, vers midi, il vint un gros orage, et je pensais que la mule n'avait pas pu se mettre en route à cause du mauvais état des chemins. Enfin, sur les 3 heures, le ciel étant lavé, la montagne luisant d'eau et de soleil, j'entendis parmi l'égouttement des feuilles et le débordement des ruisseaux gonflés les sonnailles de la mule, aussi gaie, aussi alerte qu'un grand carillon de cloche un jour de Pâques. Mais ce n'était pas le petit Miaro, ni la vieille Norade qui la conduisait. C'était, devinez qui, notre demoiselle. Mais enfin, notre demoiselle en personne, assise, droite, entre les sacs d'osier, toute rose de l'air des montagnes et du rafraîchissement de l'orage. Le petit était malade, tante Norade en vacances, chez ses enfants, la belle Stéphanette m'apprit tout ça en descendant de sa mule, et aussi qu'elle arrivait tard parce qu'elle s'était perdue en route. Mais à la voir si bien dimanchée, avec son ruban à fleurs, sa jupe brillante et ses dentelles, elle avait plutôt l'air de s'être attardée à quelque danse que d'avoir cherché son chemin dans les buissons. Oh, la mignonne créature ! Mes yeux ne pouvaient se lasser de la regarder. Il est vrai que je ne l'avais jamais vue de si près. Quelquefois, l'hiver, quand les troupeaux étaient descendus dans la plaine et que je rentrais le soir à la ferme pour souper, elle traversait la salle vivement, sans guère parler aux serviteurs. Toujours parée et un peu fière. Et maintenant, je l'avais là, devant moi, rien que pour moi. N'est-ce pas en perdre la tête ? Quand elle eut tiré les provisions du panier, Stéphanette se mit à regarder curieusement autour d'elle. Relevant un peu sa belle jupe du dimanche, qui aurait pu s'abîmer, elle entra dans le parc, voulut voir le coin où je couchais, la crèche de paille avec la peau de mouton, ma grande cape accrochée au mur, ma crosse, mon fusil à pierre, tout cela l'amusait.
« Alors c'est ici que tu vis, mon pauvre berger ? Comme tu dois t'ennuyer d'être toujours seul. Qu'est-ce que tu fais ? À quoi penses-tu ? »
Là, j'avais envie de répondre à vous, maîtresse, et je n'aurais pas menti. Mais mon trouble était si grand que je ne pouvais pas seulement trouver une parole. Je crois bien qu'elle s'en apercevait et que la méchante prenait plaisir à redoubler mon embarras avec ses malices.
Et ta bonne amie, berger, est-ce qu'elle monte aussi te voir quelquefois ? Ça doit être bien sûr la chèvre d'or, ou cette fée Estérelle qui ne court qu'à la pointe des montagnes. »
Et elle-même, en me parlant, avait bien l'air de la fée Estérelle, avec le joli rire de sa tête renversée et sa hâte de s'en aller qui faisait de sa visite une apparition.
« Adieu, berger !»«
Salut, maîtresse !» Et la voilà partie, emportant ses corbeilles vides. Lorsqu'elle disparut dans le sentier en pente, il me semblait que les cailloux roulant sous les sabots de la mule me tombaient un à un sur le cœur. Je les entendis longtemps, longtemps, et jusqu'à la fin du jour, je restais comme ensommeillé, n'osant bouger de peur de faire en aller mon rêve. Vers le soir, comme le fond des vallées commençait à devenir bleu et que les bêtes se serraient en bêlant l'une contre l'autre pour rentrer au parc, j'entendis qu'on m'appelait dans la descente. Et je vis apparaître notre demoiselle, non plus rieuse, ainsi que tout à l'heure, mais tremblante de froid, de peur de mouillure. Il paraît qu'en bas de la côte, elle avait trouvé la sorgue grossie par la pluie d'orage. Et qu'en voulant passer à toute force, elle avait risqué de se noyer. Terrible, c'est qu'à cette heure de nuit, il ne fallait plus songer à retourner à la ferme, car le chemin par la traverse, notre demoiselle n'aurait jamais su s'y retrouver toute seule. Et moi, je ne pouvais pas quitter le troupeau. Cette idée de passer la nuit sur la montagne la tourmentait beaucoup, surtout à cause de l'inquiétude des siens. Moi, je la rassurais de mon mieux. En juillet, les nuits sont courtes, maîtresse. Ce n'est qu'un mauvais moment. Et j'allumai vite un grand feu pour sécher ses pieds et sa robe toute trempée de l'eau de la sorgue. Ensuite, j'apportai devant elle du lait, des fromages jaunes. Mais la pauvre petite ne songeait ni à se chauffer ni à manger, et de voir les grosses larmes qui montaient dans ses yeux, j'avais envie de pleurer moi aussi. Cependant, la nuit était venue tout à fait. Il ne restait plus sur la crête des montagnes qu'une poussière de soleil, une vapeur de lumière du côté du couchant. Je voulus que notre demoiselle entrât se reposer dans le parc, Ayant étendu sur la paille fraîche une belle peau toute neuve, je lui ai souhaité la bonne nuit et j'allais m'asseoir dehors, devant la porte. Dieu m'est témoin que malgré le feu d'amour qui me brûlait le sang, aucune mauvaise pensée ne me vint. Rien qu'une grande fierté de songer que dans un coin du parc, tout près du troupeau curieux qui l'a regardé dormir, la fille de mes maîtres, comme une brebis plus précieuse et plus blanche que toutes les autres, reposait confiée à ma garde.